invités. Donc, il y a bien des acteurs régionaux qui se sont réunis pour parler du dossier. Puis, on voyait pas de suite logique à poursuivre l'aventure. Le risque financier était trop important pour qu'on prenne la chance de poursuivre. C'est triste parce que lorsqu'on avait lancé le train de Charlevoix, on avait de grandes ambitions. On disait que ça allait être une attraction touristique ayant une saveur internationale, puis on avait de grandes ambitions pour la suite des choses. Ça a bien fonctionné au début, cependant, dans les dernières années, l'achalandage était peut-être un petit peu moins là, puis on demandait constamment aux municipalités d'injecter de l'argent là-dedans, puis finalement, bien, hier, on a confirmé la fin des activités du train de Charlevoix, donc on en parle ce matin également dans le Journal de Québec. On va faire la pause et dans quelques instants, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec le docteur André Muncher.
Vu chez Super C, un couple qui se crée ses propres traditions des fêtes. Un bon gigot d'agneau à 5,88 la livre. Un rôti de faux filet à 7,99 la livre. Puis la dinde assaisonnée Butterball à 1,94 la livre. Ça, ça révolutionne le menu. Parce que qui c'est qui a dit ça qu'on devait manger exactement la même affaire à chaque 24 décembre? Puis ça, le restant de nos jours. Hey, mettons que j'apporte le dessert, là. Je peux-tu venir? Avec les meilleurs prix des fêtes, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 25 décembre. Détails au Super C.
En cette période de festivités, toute l'équipe du groupe Morneau vous remercie et vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Prenez le temps de vous reposer et d'apprécier ces moments précieux avec les êtres qui vous sont chers. Une bonne et heureuse année à tous.
L'actualité, notre passion, votre quotidien. Avec Kevin Beaulay, c'est Bonjour Grand Portage.
À 7h16, lorsque j'ai lu l'article dans le journal, sur le site de Radio-Canada, pardon, je me suis dit, oh, c'est intéressant. André Muncher, qui est un docteur bien connu, quelqu'un qui pratique ici à Rivière-du-Loup depuis, ma foi, de nombreuses années, a décidé d'aller servir, on va dire ça comme ça, à Gaza, avec Médecins sans frontières, d'aller soigner les gens là-bas dans une situation vraiment pas évidente. La bande de Gaza qui est impliquée, bon, dans un conflit, depuis maintenant plusieurs mois, ça a été médiatisé ici. Les gens, bon, ne connaissent peut-être pas réellement ce qui se passe là-bas, mais c'est l'horreur, en passant. C'est l'horreur, c'est pas évident. Donc, d'aller là-bas, il y a un risque, mais un risque calculé probablement parce qu'on souhaite aider les gens qui sont blessés, les gens qui sont victimes de la guerre qui se déroule de ce côté-là. Et ce matin, ben, je trouvais intéressant de parler avec le principal intéressé qui a accepté l'invitation. Bon matin, Monsieur Muncher.
Bon matin à vous.
De retour de Gaza, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que vous êtes un des rares à avoir été là-bas. C'est une situation extrêmement difficile, une situation, un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs mois, bien que Gaza, ça dure depuis des années, là, le conflit là-bas. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage là-bas?
Ben, écoutez, j'aurais envie de dire que je retiens ce que vous avez dit en préambule, c'est-à-dire que la situation sur place est vraiment déplorable et moi, je dirais misérable. On le sait, on en entend parler. Par contre, lorsqu'on est sur place, qu'on veut aider les gens qui sont là, qu'on travaille avec eux, qu'on vit avec eux, on réalise encore plus que les conditions dans lesquelles ils vivent sont vraiment épouvantables. Et juste pour donner un exemple, la bande de Gaza, c'est déjà un tout petit territoire là au sud d'Israël, à la frontière avec l'Égypte. C'est un petit territoire déjà de 365 km² à peu près, mais du fait de la guerre, les gens sont maintenant entassés sur à peu près 68 km², donc une distance d'à peu près, je vous dirais, 10-12 km par 1-2 km de large, et à peu près toute la population se retrouve dans ce petit espace, donc très réduit. Et les gens, malheureusement, vivent maintenant, pour la grande majorité, sous tente, avec pas de moyens d'hygiène à leur disposition, avec donc pas, ça veut dire pas de shampoing, une promiscuité qui est tout à fait exceptionnelle, pas d'eau surtout, ça c'est un gros problème puisque l'eau est salée, il y a de l'eau qui est dessalée habituellement, mais dans les conditions de guerre c'est plus difficile, donc il y a de l'eau qui est livrée par camion, donc les gens sont évidemment restreints. Et le principal problème, je vous dirais, qui est encore plus criant, c'est que les gens ont faim.
Oui.
Les enfants demandent du pain lorsque nous, on passe en véhicule ou qu'on a à les côtoyer. Parce que, comme vous savez, il y a une pénurie de farine actuellement qui perdure, ce qui fait que les boulangeries sont à peu près toutes fermées. Donc, grosse pénurie de pain. Et tout ça, aussi parce que la bande de Gaza est bouclée, hein, comme vous savez, c'est une prison, dans le fond, c'est une prison à ciel ouvert. Donc, tous les entrées de camions, il y en a à peu près 600 par jour, je vous dirais, en temps normal ou avant la guerre. Là, maintenant, c'est entre 0, 30, 40, 50 maximum. Ah oui.
Ça dépend des jours.
Ouais. Ben, ça dépend des jours, ça dépend des autorisations, ça dépend si les camions ou si, malheureusement, les camions qui réussissent à rentrer sont souvent volés, pillés. Donc, il y a comme un marché, là, un marché noir qui s'est institué. Il y a des groupes organisés qui pillent l'entrée des camions. Donc, pour la population, il y a pénurie d'à peu près de tout. Et ce qui se retrouve sur les marchés, c'est à un prix ou en fait, si on pourrait dire. Donc, les gens ont excessivement de difficultés à s'approvisionner en biens de première nécessité.
Qu'est-ce qui vous a incité, M. Munger, à aller là-bas? Parce que j'imagine qu'il y a un risque, on doit y penser. On est en situation de guerre, là. Bon, il y a des règles internationales à respecter lorsqu'on est dans une situation de guerre, notamment, mais on ne sait pas, on est en territoire ennemi, on est en territoire étranger, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui vous a incité à aller là-bas?
Bien, je vous dirais, c'est un peu comme vous disiez tout à l'heure, là. Je pense que l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer d'aller aider les gens qui sont là. L'hôpital dans lequel, moi, je travaillais, c'était un hôpital dédié pour les enfants, principalement. Donc, on avait des services d'hospitalisation pour les enfants qui souffrent principalement actuellement de problèmes de pneumonie, de bronchiolite, de problèmes respiratoires, puisque c'est maintenant la saison froide. En fait, pour eux, c'est l'hiver, donc il n'y a pas de neige comme ça matin, évidemment.
Ouais.
Mais il y a quand même des grands vents, il y a de la pluie, et surtout la température, non pas comme ici non plus, mais la nuit peut descendre jusqu'à 10, l'hiver jusqu'à 6. Donc, on peut imaginer les gens qui vivent sous bâche ou sous petite tente vont vivre des conditions difficiles. C'est froid pour nous. Imaginez, c'est froid pour eux aussi. Donc, je pense que l'idée, c'est d'essayer d'aller aider les gens, d'apporter des soins, aussi de montrer, parce que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était leur capacité d'adaptation. Les gens avec qui je travaillais, je pense à tout le personnel là, qui était avec nous. Qui sont vraiment dédiés à la tâche, et malgré les conditions de vie dans lesquelles eux-mêmes vivent, ces professionnels-là. Donc, je me dis, effectivement, ici, on vit dans de bonnes conditions malgré tout. On a la santé et tout, donc pourquoi pas aller leur donner un coup de main dans des conditions où eux-mêmes se retrouvent isolés. Et une des choses que j'ai retenu beaucoup, c'était les gens qui me demandaient, dans le fond, c'est pourquoi à l'extérieur de Gaza, les gens, ils savent bien ce qui se passe, parce que tout le monde là-bas aussi a la possibilité d'avoir des médias sociaux, etc. Donc, pourquoi tous les gens nous laissent ainsi? Et moi, la réponse était évidemment difficile à leur donner. Mais le seul réconfort, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir aussi, c'est de voir qu'il y a des expatriés. Il y a quand même des ONG, des agences de l'ONU qui sont là avec du personnel international qui tente de les aider tant bien que mal.
Oui, j'imagine, M. Munger, bon, vous êtes habitué de travailler dans un climat qui est beaucoup plus propice pour aider les gens, bon, avec des équipements qui sont spécialisés. Bon, le système de santé au Québec est peut-être pas parfait, mais si on se compare, finalement, on n'est pas si pire que ça. À quel point ça a demandé de l'adaptation, d'arriver dans un contexte qui est complètement différent, probablement avec des équipements qui sont très loin de ce qu'on a ici, de devoir également guérir des enfants avec des cas quand même assez importants, des cas assez graves, mais pas avec les mêmes équipements qu'on a ici. J'imagine que pour vous, ça a demandé une certaine capacité d'adaptation.
Oui, ça demande de l'adaptation, et donc il faut faire avec ce qu'on a sur place. Le problème à Gaza, c'est que les structures de la santé, que ce soit des hôpitaux privés ou des hôpitaux du ministère de la Santé, sont bombardés, donc sont attaqués de façon, je vous dirais, presque pas loin d'être journalière. Il y a énormément de structures de santé qui ont été détruites, en fait, ou qui sont visées par des bombardements. Donc ça rend les soins excessivement difficiles. Pour nous, à MSF, on est habitué d'importer ou de faire venir du matériel qui ne peut se trouver d'ordinaire sur place dans de telles conditions, dans des zones de conflit. Le problème dans ce cas-ci que nous avons, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est le blocus du territoire. Donc,
ça se rend pas.
Beaucoup de matériel, de médicaments sont déjà commandés, sont soit en Égypte ou soit en Jordanie à Amman, attendent de rentrer. Mais malheureusement, ces entrées-là se font compte-gouttes. Et le drame de tout ça, c'est une fois que les camions réussissent à rentrer, bien, je vous dirais que l'armée israélienne ne protège pas ces camions-là sur le bord de la zone. Et puis, la majorité sont pillés par des gens à l'intérieur. Donc, ce qui fait que toutes les denrées, comme on parlait tout à l'heure, ou les fournitures médicales et les médicaments ne se rendent pas dans nos structures de santé. Donc, on fait avec ce qu'on a. Les quantités sont limitées. Mais les besoins, eux, sont illimités à l'intérieur de la bande de Gaza.
L'hôpital dans lequel vous travailliez ressemblait à quoi? Est-ce que c'était convenable comme environnement de travail?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un hôpital, c'est un terrain vague qu'on avait reçu au départ durant l'été. Et il y a un hôpital qu'on appelle modulaire, donc fait à partir de préfabriqués, qui a été construit afin de recevoir une clinique externe, une urgence, des lits pour l'hospitalisation, des salles d'isolement, enfin tout, même des salles d'opération au besoin, si jamais le besoin se fait sentir. Donc tout ça a été monté dans le courant de l'été. Les opérations comme telles ont débuté en septembre. Et lorsque j'y étais, là, jusqu'il y a deux semaines, on était en phase là, d'augmentation des activités, de mise en place avec différents services. Il y a des services de santé mentale, de physio, etc., pour les gens autour. Donc, l'hôpital est c'est dans le milieu de la bande de Gaza. C'est un endroit qui s'appelle Deir al-Bala. Et autour de cet endroit-là, il y a des camps de réfugiés palestiniens qui sont présents depuis 1948-1952, donc du début de la naissance d'Israël. Et la zone où nous, on était au niveau sécuritaire, vous parliez de ça tout à l'heure, effectivement, c'est un élément majeur. Donc, il y a une petite partie de territoire que je vous mentionnais tout à l'heure, là, de 68 kilomètres carrés, qui représente une zone, entre guillemets, verte ou sécuritaire, où on entend souvent parler de zone humanitaire à Gaza. C'est ce territoire-là qui, en principe, devrait être exclu des bombardements, ce qui n'est pas le cas par ailleurs. Hein. Il y a des bombardements quotidiens dans
partout,
cette zone sécuritaire, mais à Deir al-Bala, où nous étions, les bombardements n'étaient pas proches de l'hôpital. Il est plus proche d'à peu près à 3-4 kilomètres, dans les camps de Nusayrat, Bourej et Al-Maghazi, là, qu'on entend. Et donc, les gens sont déplacés en permanence et doivent donc se réfugier dans cette zone-là où il y a une surpopulation.
Vous avez passé combien de temps exactement à Gaza? Et est-ce que vous avez craint pendant votre séjour, à un moment donné, pour votre sécurité? Parce que, bon, vous dites que les bombardements étaient à quelques kilomètres, mais même s'il y a une bombe qui tombe à 5, 6, 7 kilomètres, on l'entend. J'imagine que la première doit faire un choc puis on s'habitue pas à ce genre de bruit-là. Mais est-ce que vous avez craint à un moment donné pour votre propre sécurité?
Je dirais que non, en sachant qu'il pouvait arriver n'importe quoi, n'importe quand, mais le principal écueil, c'est de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, lorsqu'une bombe tombe ou lorsqu'il y a des tirs d'armes automatiques. Mais autrement, le risque est calculé, comme on devine, mais je vous dirais que non. Par contre, les bombardements sont quotidiens. Je vous dirais que ça, c'est assez particulier. Les gens là-bas, au bout d'un an, même plus qu'un an, finissent par s'habituer. Mais ce que je retiens, c'était les premières journées où je faisais la tournée médicale des patients avec l'équipe de médecins palestiniens là-bas. Et le matin, au début de la tournée, vers 7h30, 8h, on entendait... En fait, on faisait la tournée sous le bruit des bombes, hein, puisque 3 ou 4 kilomètres, là, c'est pas tellement loin. On peut imaginer la distance, par exemple, entre ici, ou même le portage. Hein. Donc le sol tremble parce que à cause de la vibration des bombes, le son est quand même assez fort. Il y a des tirs au quotidien aussi d'armes automatiques, là, de gros calibre, etc. Et ça, c'est tout autour. Et les gens, malgré tout, font leur travail comme... moi, je disais comme si de rien n'était. Au début, je levais la tête et les gens me regardaient en voulant dire « Non, ça, c'est quotidien, ça va, c'est pas ici à côté, c'est pas dangereux pour nous. » Mais moi, je ne pouvais m'empêcher, vous savez, de penser aux gens qui sont dans les maisons et qui, eux, effectivement, reçoivent ces bombes-là. D'autant qu'on avait beaucoup... de personnel à nous qui vivent justement dans ces endroits-là et qui, le matin, font le chemin inverse de s'en venir travailler avec nous et qui, le soir, doivent retourner et ne savent pas si leurs maisons vont être bombardées ou pas.
Ouais. Est-ce que vous avez, en terminant, M. Munger, est-ce que vous avez l'intention d'y retourner? Est-ce que ça fait partie de vos objectifs à court, moyen, long terme?
Écoutez, les portes sont pas fermées. On connaît pas l'avenir, surtout pas sur le territoire là-bas. Ça...